Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous avons eu le plaisir d'accueillir Blaise Dubois. Il est à la fois kinésithérapeute depuis une vingtaine d'années et également fondateur de la clinique du coureur. Il porte également de nombreuses autres casquettes. Conférencier, auteur, co-gestionnaire de cliniques de physiothérapie et de médecine du sport, par exemple. Aujourd'hui, il nous a livré ses réflexions sur l'équilibre, l'importance de l'activité physique pour le bien-être global et nous a plongé dans l'univers de la course à pied. Bonne écoute.
Bonjour Blaise.
Bonjour Nina, bonjour Yann.
Salut.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre podcast. Et donc, la première question qu'on va te poser, qu'on pose à tous nos invités, c'est pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être bien dans ses baskets ?
Alors, être bien dans ses baskets, dans mes baskets, c'est être sur mon X. En fait, c'est chercher et trouver son X, et je vais définir c'est quoi le X. C'est ce que je fais la majorité de mon temps dans ma journée, qui est ce que j'aime et ce que je suis bon. Et c'est un exercice que je fais à chaque année, en fin de compte, pour essayer toujours de déterminer où est-ce que je dois être dans la vie. Et être bien dans ses baskets, c'est être sur son X, pour moi. C'est-à-dire être à la bonne place, faire les bonnes choses, faire ce qui me plaît, ce qui m'anime, ce qui me rend heureux. Et en même temps, quelque chose qui aussi me valorise et parce que je suis bon à faire ces choses-là. Et je m'assure d'avoir au moins 60% de mon temps dans mes baskets, c'est-à-dire sur mon X.
Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ton X, ce que tu fais dans la vie, te présenter un petit peu?
Oui. Alors, je suis physiothérapeute de profession, kiné en France. Et j'ai gradué il y a déjà bien longtemps. Et depuis, je suis devenu propriétaire de cliniques de physiothérapie à Québec, qui sont les cliniques de physiothérapie PCN. Donc, qui est quand même 15 cliniques, cabinets avec 240 employés. Donc, c'est quand même une grosse structure. Et en 2008, j'ai fondé la Clinique du coureur, qui est un organisme de formation continue avec une veille scientifique systématique pour s'assurer de toujours être à jour sur tout ce qui est traitement, prévention des blessures chez le coureur. Et en fait, la Clinique du coureur s'est développée de façon quand même assez importante parce que maintenant, on est plus de 70 à y travailler, à collaborer, c'est-à-dire avec des speakers un peu partout dans le monde. On enseigne dans 15 pays, en 7 différentes langues. Donc ça, c'est une autre partie de ma vie qui est l'entrepreneuriat dans la gestion de cette organisation, qui est une organisation affranchie, donc sans patron, sans hiérarchie structurelle, autre qu'une hiérarchie de connaissances et d'expertise. Et la clinique du coureur prend une partie de ma vie, PCN une autre partie de ma vie. Avec tout ça, je fais un peu de recherche, je fais encore de la clinique, je cours tous les jours, j'ai 4 enfants, je suis grand-père d'une petite fille, ma vie est bien chargée, je voyage passablement pour aller faire des expériences, par exemple au Kenya. On organise aussi des courses, on a un fonds philanthropique, on fait de la recherche. On a une veille systématique avec Jean-François Esculier qui s'occupe de ça, bien évidemment sur lequel on se tient à jour. Et je fais de la formation continue aussi. Donc, je viens de passer pas mal de temps à construire un e-learning sur la chaussure. Donc, voilà. Ça fait le tour un peu de tout ce que je fais.
La première question qui me vient quand tu nous parles de tout ça, c'est finalement comment tu trouves un équilibre entre ta vie pro, ta vie perso, également peut-être ton activité physique. Comment tu arrives à rentrer tout ça dans une seule semaine et une seule journée?
Alors d'abord, il y a le non négociable dans tout ça, c'est le temps nécessaire pour faire de l'activité physique. Donc, tous les jours, je vais aller courir ou faire une activité quelconque et bien évidemment, ça s'est pris sur mon temps, peu importe la charge que je vais avoir. C'est très rare que j'ai une journée où je ne peux vraiment pas m'entraîner. Parce que je sais aussi que ça me rend beaucoup plus efficace, que ça fait en sorte que je... En fait, pas juste plus efficace, mais plus créatif, plus efficace dans les tâches que je vais faire, plus intelligent, je vais dire, de faire de l'activité. Donc, si je place mon heure dans la journée, parfois un peu plus, parfois un petit peu moins, ça m'assure, en fin de compte, d'être pleinement là, pleinement présent dans ma journée. Et c'est un défi quand même de tout faire ça. Le défi, en fin de compte, c'est de donner du temps là où on a le plus de valeur. Donc, quand on a beaucoup de... J'ai quelques entreprises, parce que je ne vous ai pas dit non plus, mais on a aussi de l'immobilier, on organise des expériences, on a fabriqué des chalets pour faire des expériences particulières. On a beaucoup, beaucoup de choses. Et je vous dirais que c'est les gens qui m'entourent, en fin de compte, qui laissent croire que j'ai beaucoup de choses dans mon assiette, mais qu'eux prennent ces choses-là et que je suis beaucoup dans la discussion, dans l'idéation, dans la création d'idées. Et après ça, ben, il y a bien évidemment des gens qui m'aident et qui m'entourent finalement pour faire tout ça. Et bien évidemment, j'ai une femme qui est à mes côtés toute la journée. On travaille ensemble, donc on fait beaucoup de choses ensemble. Ça fait en sorte que je vois ma blonde, ma femme, abondamment quand même. On s'entraîne ensemble aussi. Mes enfants grandissent et sont indépendants, mais tous les jours, je leur parle quand même ou je les vois ou on passe du temps ensemble. Mon garçon maintenant qui est avec sa fille et à sa maison et dans la ville de Québec, et voilà. Et mes trois filles qui restent encore à la maison chez nous, donc voilà.
Ok, et du coup, au tout début, tu nous as parlé de la priorité que tu mettais dans l'activité physique, dans ta journée, et des bienfaits que ça peut avoir pour toi. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a un consensus scientifique sur, en fait, les bienfaits de l'activité physique de manière globale sur, comme tu dis, la créativité, par exemple, les fonctions cognitives? Est-ce qu'il y a un consensus scientifique?
Il y a abondamment d'études sur la santé mentale et l'activité physique. Ça, il y en a une tonne. C'est-à-dire qu'on sait que ça réduit jusqu'à 60% la détresse psychologique, la dépression d'un autre pourcentage, mais qui est quand même très significatif. Ça a vraiment des effets sur le cerveau qui sont phénoménales. Alors moi, je peux vous parler un petit peu de science. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais on l'explore quand même parce qu'on est pro-activité physique, donc on essaie de voir dans quelle mesure ça a des influences sur le reste. Mais ça, c'est extrêmement clair d'un point de vue scientifique. Il y a des revues systématiques, il y a des études abondantes sur le sujet. Moi, je peux vous dire ce que ça fait chez moi. C'est-à-dire que c'est quand je vais courir, c'est quand je vais... En plus, pour vous parler un peu de la course à pied, dans mon cas, je ne cours pas de montre. Ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup d'années que je ne cours pas de montre. Je n'ai pas de planification d'entraînement très rigide. Souvent, je planifie de façon très macro. C'est quand que j'ai un week-end choc. Dans la semaine, j'essaye d'intégrer une séance de côte avec un peu de physiologie, de VO2. Mais sinon, je n'ai pas de planif. En fin de compte, ça dépend beaucoup de comment je vais dans ma journée, comment je me sens, comment va mon corps et comment va ma tête aussi. Est-ce que j'ai plus ou moins de temps? Est-ce que je suis préoccupé? Est-ce que je vais aller jogger juste pour me vider l'esprit, la tête? Ou sinon, pour aller avoir envie de faire un entraînement de qualité où là, je vais faire des tempos, des intervalles et puis là, je vais me permettre d'aller un petit peu plus vite. Donc déjà, moi, quand je pars courir, je pars pas de cellulaire, je pars pas de téléphone, pas de montre, j'ai pas de planif, je pars et je pars dans le bois, je cours en minimaliste, je suis très, très minimaliste dans mon approche de la course à pied. Et c'est ça, je pense, qui me fait le plus de bien, c'est-à-dire d'être capable de partir dans la forêt, de ne pas me préoccuper. En fin de compte, ce que ça fait, la course, c'est que ça me prend un certain temps pour nettoyer mon cerveau, m'apaiser, faire en sorte, en fin de compte, que je me sente de mieux en mieux. Alors, bien évidemment, il y a des explications hormonales et physiologiques à tout ça. Je produis des endocannabinoïdes, les fameuses endorphines que les gens connaissent. Et en fin de compte, ce qui arrive, c'est que je me sens de mieux en mieux. Puis après ça, je m'apaise. Et mes moments de course à pied sont les moments les plus créatifs que j'ai, en fin de compte, dans ma vie. C'est-à-dire, c'est les moments, clairement, où j'ai les meilleures idées. En physiothérapie, j'ai créé, par exemple, le Peace and Love, la quantification du stress mécanique, différentes théories de toutes sortes. Ils me sont tous arrivés en courant. C'est vraiment dans le moment de la course à pied et au retour de la course à pied, pendant les 30 minutes qui suivent, où mon cerveau est a le plus de clarté, est le plus créatif et est prêt, en fin de compte, à aller plus loin. Donc, moi, personnellement, ça, c'est des soupapes de stress qui sont très importantes. Encore une fois, la littérature est abondante sur ce sujet-là. Mais moi, personnellement, je le vois beaucoup plus comme un moment de créativité, un moment de relaxation, un moment où la course à pied, en fin de compte, me fait du bien. Et clairement, quand je vais courir, je suis dans mes baskets, je suis sur mon X. Et c'est des baskets minimalistes.
Et justement, comment tu expliques, malgré toutes les connaissances d'aujourd'hui, donc avec les bienfaits sur la santé mentale, la santé physique, etc., qu'on n'a jamais été aussi sédentaire. Comment t'expliques justement ce fossé entre la littérature qui nous dit bah, justement il y a plein de bienfaits, mais pourtant aujourd'hui on n'a jamais autant peu bougé?
Ben moi je pense que c'est parce que l'animal humain cherche la facilité le plus possible. C'est même des mécanismes de survie. On veut pas dépenser de l'énergie pour rien. Si tu vas pas courir, si c'est pas pour aller chercher ton repas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le repas, il est sur la table. Le repas, et on minimise tout. En fait, c'est naturel d'essayer d'être économe. C'est naturel, en fin de compte, d'essayer de bouger le moins possible, d'être économique. Mieux que ça, de stocker un peu de gras pour l'hiver. Donc, ça fait partie, en fin de compte, de l'humain, d'être économe, de s'économiser, de choisir le chemin le plus court pour aller au point B. Et en fin de compte, ben, le problème, c'est que présentement, on est une machine à stocker du gras pour pouvoir survivre en moment de famine, pour pouvoir survivre pendant tout l'hiver québécois. Et puis finalement, ben, maintenant, ben, on peut prendre du gras et puis on continue, on n'a pas de famine et on continue de manger quand même. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle on n'a jamais été aussi gros. C'est la raison pour laquelle on n'a jamais fait si peu d'activités, juste parce que c'est exigeant. Et là, la personne qui, moi, quand je motive mes patients à faire de l'activité physique, ben, je les avertis, je leur dis qu'au début, c'est une discipline, c'est une intellectualisation d'un processus qui n'est peut-être pas naturel pour eux. Mais après un certain temps, quand on commence à y voir les bienfaits, quand on commence à être accro aux endocannabinoïdes, là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que là, il y a... Moi, en fin de compte, j'arrive à courir, je ne suis pas bigorexique, donc j'arrive très bien à arrêter de courir pendant quelques jours si besoin. Si j'ai besoin de me reposer parce que j'ai mal à quelque chose, je ne cours pas, je ne me sens pas, je ne suis pas en sevrage comme plusieurs de mes patients peuvent l'être. Les bigorexiques, ceux qui ont une dépendance à l'activité. Mais en fait, je réalise quand même tous les bienfaits que ça me fait et j'ai envie d'aller courir. Et envie d'aller courir, c'est-à-dire que là, j'ai un bloc que j'ai réservé pour aller courir parce que je sais que ça me fait du bien et j'ai plus besoin de cette motivation intrinsèque parce qu'elle arrive naturellement. Donc, je dis souvent à mes patients, il va falloir persévérer pendant 4, 6, 8 semaines pour que ça devienne une sorte, d'une part, une habitude, mais d'une autre part, quelque chose qui te fait assez de bien, qui t'amène dans les zones du plaisir qui font en sorte que tu as envie de récidiver le lendemain. Et ce que je dis aussi souvent, c'est que, et ça c'est aussi vrai pour la prévention des blessures que pour l'aspect être capable de garder le rythme, de suivre un programme, c'est de courir tous les jours. C'est-à-dire essayer de sortir quotidiennement pour justement avoir cette dose en fin de compte qui fait en sorte que c'est comme se brosser les dents, c'est comme plein d'autres choses, c'est le rythme qui fait en sorte qu'on devient, qu'on a plus de rigueur en fin de compte à y retourner.
Ok. Et du coup, est-ce que tu parlais de la notion de plaisir tout à l'heure? Comment garder la notion de plaisir? Est-ce que pour toi, elle est essentielle? C'est-à-dire que est-ce que, par exemple, un coureur qui court pour tous les bienfaits qu'on a cités auparavant, mais qui ne trouve vraiment pas son compte, même s'il a passé justement les quelques semaines où il faut un peu se motiver et aller au-delà de ses retranchements, est-ce que si la notion de plaisir vient pas... Du coup, on observe une réduction des bienfaits. Est-ce que ça vaut le coup, en fait, d'aller courir sans prendre de plaisir?
Ouais. Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, ça m'arrive d'avoir des patients qui me disent « Ah, moi, ça fait un an que je cours, j'ai toujours pas de plaisir à courir. » Je les comprends un peu parce que moi, j'ai beaucoup de plaisir à courir, mais quand je vais faire du ski de fond avec ma blonde qui adore le ski de fond, qui est brune d'ailleurs, hein, mais c'est au Québec qu'on dit ma blonde, je vais faire du ski de fond et j'ai jamais autant de plaisir en faisant du ski de fond que je peux en avoir en faisant de la course à pied. Donc, il y a certainement une gestuelle pour moi qui est plus naturelle, qui m'amène plus de plaisir, qui est associée à plus de plaisir, tandis que le ski de fond, ben, ça m'amène dans mes retranchements physiologiques et là, je suis à VO2 puis c'est difficile. Puis c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que j'ai moins de plaisir. Mais je sais pas, en fin de compte. C'est sûr que quelqu'un qui a aucun plaisir à courir, puis que ça fait pourtant 2-3 mois qu'il arrive à être régulier, quotidien, ça arrive d'abord pas très souvent qu'après un certain temps, si tu arrives à être très régulier et quotidien, tu n'as vraiment pas de plaisir. Ça, c'est quand même rare. Mais si c'est le cas, ben, j'essayerais peut-être d'autres alternatives. Est-ce que faire du vélo, de la natation, même si ça n'a pas tous les bienfaits de la course à pied, entre autres sur l'adaptation du tissu osseux, cartilagineux, la prévention de l'arthrose, de l'ostéoporose, mais ça reste quand même que ça, pour la santé mentale, pour la santé cardiovasculaire, pour les cancers, parce que ça aussi, il y a plein d'études qui nous montrent qu'on arrive à réduire de façon significative le risque de cancer en lien avec l'activité physique, cardiovasculaire, régulière. Si la personne n'a pas de plaisir, ben peut-être j'essaierai autre chose, effectivement. Mais moi, j'ai du plaisir aussi à aller courir parce que je vais courir dans la forêt et parce que je n'ai pas d'objectif précis et parce que je me permets de monter en haut de la montagne où j'ai une vue splendide et où je me sens vivant. Et si je courais comme dans le temps, je suis un coureur de 800 mètres quand j'étais plus jeune, courir sur une piste, tourner en rond ou aller faire du bitume continuellement, probablement que j'aurais beaucoup moins de plaisir. Donc, il y a aussi la manière dont on intègre la course à pied. Il y en a qui ont beaucoup plus de plaisir à courir avec de la musique. Il y en a qui écoutent des podcasts. Moi, je préfère être dans le moment présent, mais c'est propre à chacun. Voilà. Trouver sa manière, en fin de compte, d'être actif et d'avoir du plaisir. Et si ce n'est pas par la course, ça peut être pour autre chose, mais peut-être qu'il y a plein de choses qu'on peut faire autour de la course à pied pour avoir du plaisir. Et une des raisons pourquoi les courses à obstacles que vous avez peut-être aussi en Europe, hein, où tu cours, tu fais plein d'obstacles de toutes sortes, ça a un succès monstre parce que les gens prennent du plaisir à varier et ne pas juste courir.
Très bien. Et justement, quel conseil donnerais-tu à ceux qui voudraient commencer la course à pied ?
Alors moi, j'ai des conseils qui sont très pragmatiques, concrets pour ne pas se blesser parce que la raison numéro un pour laquelle tu vas arrêter de courir, c'est parce que tu vas te blesser. C'est un coureur sur deux jusqu'à 80% des débutants qui se blessent à chaque année. Donc, la raison numéro un, c'est ça. Il faut qu'on essaye de prévenir les blessures. L'autre chose, la deuxième raison, c'est le manque de motivation. Donc, ce que je fais avec un coureur débutant, c'est que j'ai dit, ça nous prend un objectif. Ça prend quelque chose qui t'amène à avoir la journée où tu n'as pas trop le goût, tu dis, bon, ben je suis inscrit aux 5 km de la clinique du coureur au lac Beauport. Je vais aller faire mon entraînement aujourd'hui. En plus, c'est bon pour ma santé, mais bon, j'ai un objectif, donc je me motive pour répondre à cet objectif. Donc ça, c'est la première chose, avoir un objectif clair et défini. La deuxième chose, c'est être conscient que les premières semaines ne sont pas toujours faciles et que finalement, au niveau de la motivation, il faut que j'intellectualise un peu, il faut que je me motive, il faut que je m'impose une certaine discipline pour y arriver. Ensuite, on sait par exemple que ceux qui courent le matin en se levant ont plus de chances d'avoir fait leur entraînement que ceux qui courent ailleurs dans la journée. Parce qu'arriver à la soirée, ben, il y a toujours un moment où tu dis « Ah ben finalement, j'ai pas le temps » ou etc. Et quand tu commences par ton activité et que tu le mets en priorité dans la partie de la journée qui est la plus importante pour toi où tu es sûr de pouvoir le prendre ce temps-là, ben, il y a plus de chances que tu respectes ton programme. Ensuite, de courir tous les jours va augmenter la probabilité que tu as un nombre suffisant d'entraînements pour que ça devienne une habitude. Donc, encore une fois, je leur dis, tu cours tous les jours. Tu prends un joker de temps en temps, c'est correct, mais tu essayes de courir tous les jours. Et ensuite, mes conseils sont sur des aspects qui vont amener une bonne prévention des blessures. Donc, c'est-à-dire, je leur donne un programme fractionné, niveau 1, la clinique du coureur qui commence à 3 fois une minute. Tout le monde commence trop vite et c'est la raison pour laquelle ils se blessent. Le trop vite est la cause numéro 1. 80% des causes des blessures en course à pied, c'est que j'en ai trop fait par rapport à mes habitudes. Donc, ce que je vais leur donner un programme très progressif. Je vais leur dire de courir tous les jours et je vais leur expliquer la quantification du stress mécanique. C'est-à-dire écouter son corps en fonction de la réponse de l'activité qu'on y fait. Donc, je cours 3 fois une minute. La question, c'est comment tu te sens pendant, comment tu te sens après. Est-ce que le lendemain, tu es capable de refaire le même entraînement ou plus? Si oui, bingo, on continue. Le lendemain, tu fais 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8 fois une minute. Et à 9 fois une minute, tu dis, ah, là, j'ai couru, puis j'ai senti un peu vers la fin que mon tendon d'Achille était un peu sensible. Comment j'évolue après? Cette douleur-là s'en va rapidement. Le lendemain, je n'en tiens pas compte. En fait, j'ai plus de douleur. Bingo, je peux retourner courir, mais plutôt que de refaire le 9, je vais peut-être revenir au 8, rester au 8 pendant un certain temps, s'assurer que mon corps s'adapte au niveau de pas juste sa physiologie au niveau cardiovasculaire, parce que souvent, la personne qui est très peu en forme, qui est par exemple obèse, va progresser très doucement dans sa progression parce que c'est le système physiologique qui va le limiter. la personne qui est très en forme, qui est svelte et qui a l'habitude de faire du vélo, de la natation, qui tout d'un coup commence un programme de course à pied, est beaucoup plus à risque de se blesser parce que va en faire beaucoup plus par rapport à sa capacité cardiovasculaire. Donc, je m'assure que c'est le système musculo-squelettique qui soit le guide numéro un pour ces personnes-là pour dire « OK, je sens mon tendon d'Achille, je reviens en arrière, je fais du surplace, je m'assure de m'adapter avant de pouvoir reprogresser. » Ça, c'est la quantification du stress mécanique. En plus de la quantification du stress mécanique, dans un objectif de prévention des blessures, vu qu'il est débutant, je lui donne ce qu'on connaît de mieux actuellement comme recommandation pour avoir des biomécaniques qui sont protectrices, des comportements de modération d'impact qui sont efficaces. Ça veut dire faire des petits pas, faire moins de bruit et porter des chaussures minimalistes. Donc, un débutant, en fin de compte, c'est les trois conseils clés que je vais lui donner pour faire en sorte qu'il démarre immédiatement avec des habitudes qui vont l'amener à avoir une biomécanique plus protectrice dans le temps. Voilà.
OK. Et du coup, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent mais qui ne savent pas ce que c'est des chaussures minimalistes, tu peux rappeler les bases déjà, expliquer ce que c'est et la différence avec la maximaliste?
Ouais. Alors, entre le minimalisme et le maximaliste, il y a un continuum. On a d'ailleurs publié un article scientifique, on a créé ce qu'on appelle l'index minimaliste, un consensus d'experts, une étude Delphi où on a 42 experts, les plus grands experts de la chaussure à travers le monde, qui sont venus à un consensus sur la définition de c'est quoi une chaussure minimaliste et c'est quoi ce continuum. C'est une étude qu'on a publiée avec Jean-François Esculier justement pour être capable de quantifier le degré de minimalisme des chaussures ou le degré de maximalisme. En fait, plus tu t'approches du pied nu, plus c'est minimaliste. Plus tu es proche de la botte de ski, plus c'est maximaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait actuellement qu'il y a des chaussures. Il y a 5 critères qui définissent la chaussure minimaliste ou maximaliste. Entre autres, le poids, l'épaisseur, le drop, c'est l'élévation au niveau du talon, les technologies pour contrôler le pied au niveau de sa pronation et la flexibilité. Donc, une chaussure qui est très rigide, qui est très épaisse, qui a un talon très surélevé et qui a plein de technologies de toutes sortes est une chaussure du côté du maximaliste, donc avec un indice minimaliste très bas. Et une chaussure qui est ultra mince, pas d'élévation au talon, aucune technologie à l'intérieur, juste une petite cuirette, exemple un mocassin, et très très flexible, pourrait avoir un indice minimaliste de 100%. Ce qu'on sait actuellement, c'est que plus on s'approche de l'indice minimaliste de 100%, plus les comportements de modération d'impact vont être efficaces, c'est-à-dire plus la personne va courir avec des petits pas, sans faire de bruit, en absorbant le choc de façon beaucoup plus efficace. Donc, la définition de la chaussure, ce qu'on achète puis qu'on met dans nos pieds, va influencer de façon très importante la technique de course. Et ça, là-dessus, il y a une abondance de science sur ces aspects-là.
Très bien. Et justement, comment tu expliques que les gens accordent autant d'importance au matériel? On voit qu'il y a beaucoup d'engouement autour de la chaussure minimaliste, maximaliste. Et comment t'expliques qu'on parle beaucoup plus de ça et je trouve beaucoup moins justement de la quantification du stress mécanique, de la charge d'entraînement? Comment justement t'expliques cet engouement autour de la chaussure?
Ouais, j'adore ta question. En fait, quand je donne des conférences, je parle de plein de choses. Et à la fin, il y a la période des questions et toutes les questions sont sur les chaussures. En fait, je pense parce qu'on a un objet tangible, on a quelque chose entre les mains, on a quelque chose en plus qui est passionnant, c'est-à-dire qu'il y a plein de couleurs, qu'il y a plein de technologies, sur lesquelles on a réussi à nous faire croire plein de choses, genre ça prévient les blessures, ce qui n'est absolument pas le cas, que ça nous fait courir plus vite, ce qui n'est pas le cas pour bon nombre de personnes. Il y a quelques personnes qui ont des chaussures qui pourraient être un peu plus performantes, mais il reste que le marketing nous a complètement teintés et nous a influencés sur plein de choses. Mais je pense que l'engouement vers la chaussure des gens est parce que c'est ce qui est mis de l'avant. Quand on parle de jogging, on parle de chaussures de jogging, avant n'importe quoi d'autre. C'est l'objet tangible, c'est la technologie, les couleurs et l'ensemble de tout ce qu'on nous met dans nos oreilles et au niveau visuel, au niveau marketing. Il faut savoir que la chaussure de sport, c'est un business qui maintenant dépasse les 100 milliards de dollars par année. Il y a des sous à faire. Il faut savoir aussi que c'est une proportion importante des budgets des équipementiers qui est sur la promotion de leur technologie et la promotion de leurs chaussures, avec toutes les technologies qui ne servent absolument à rien, qui n'ont pas été étudiées. C'est de la bullshit, mais on en fait beaucoup la promotion. Donc, le coureur voit beaucoup quand même cette exposition-là. Il rentre dans une boutique de course. On sait que c'est une boutique de course quand tu regardes l'étalage des chaussures, pas quand tu regardes les vestes et puis les habits. C'est la caractéristique, ce qui nous dissocie, ce qui nous différencie, je devrais dire, c'est les chaussures. Et en plus, tu as des coureurs qui vont dire, ben, moi, je suis un Nike, moi, je suis un New Balance, moi, je suis un Saucony, moi, je suis un ASIC, les grosses marques, toi, pour dire, ah, moi, je suis un ASIC, puis je ne change pas, j'aime cette marque, et puis je rachète à chaque fois la même marque.
Très bien, et justement, comment on peut lutter contre ces pratiques finalement injustifiées qui se basent sur aucune littérature et permettre au grand public vraiment d'accéder à ces connaissances-là?
Ouh, là, c'est une question piège que tu me poses. C'est difficile, ça. En fait, toi, la clinique du coureur, c'est ce qu'elle fait. Elle prend la science. On épluche la science de A à Z. Sur la chaussure, d'ailleurs, il n'y a aucune étude qu'on n'a pas vue, c'est clair. On vient de finir un e-learning. On a fait des revues de littérature exhaustives pour vraiment tout lire. La question, en fin de compte, c'est... tu sais, on épluche la littérature scientifique. On construit des guides de bonnes pratiques. On a éduqué des dizaines de milliers de professionnels à travers le monde. On a donné des conférences à, j'oserais dire, des dizaines de milliers de coureurs, voire des centaines de milliers de coureurs qui, par les professionnels qu'on éduque, eux éduquent des coureurs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui connaissent la science de tout ça. On a même fait une étude, et là, c'est un petit in, parce que c'est Jean-François Esculier qui a fait l'étude, et elle n'est pas encore publiée, mais elle est en soumission actuellement. Qui montre en fin de compte que même si on a un aspect éducatif envers les coureurs, ils ne changent pas leurs habitudes. Donc, tu les éduques sur c'est quoi les bonnes pratiques par rapport à leurs conditions à eux, donc selon différents critères, qu'est-ce qu'ils devraient avoir comme chaussures. Et finalement, ben, ils reviennent à leurs anciennes habitudes à peu près tout le temps, puis ça ne change à peu près rien. Pour quelques raisons, d'abord, la première, c'est que je pense encore une fois que c'est des biais cognitifs de l'humain qui nous amènent toujours à aller vers ce qu'on nous présente et ainsi de suite. Mais l'autre chose aussi, c'est que on ne nous laisse pas beaucoup de choix. Si je te dis, est-ce que tu as choisi la chaussure que tu as achetée dernièrement? Tu vas me répondre oui. Tu vas dire oui, je suis allé dans une boutique et puis j'ai choisi la chaussure avec laquelle je voulais courir. Et moi, j'aime bien poser la question. Je dis, mais tu n'as pas vraiment choisi parce que tu as choisi la couleur, tu as choisi peut-être la marque. Mais toutes les chaussures sont les mêmes. Parce qu'actuellement, quand tu rentres dans une boutique de course, il n'y a plus de mode du minimalisme, d'ailleurs. On est uniquement dans de la grosse godasse et tu n'as pas le choix. Si tu veux repartir avec une chaussure, elle va être grosse. Il faut que tu fasses des efforts délibérés pour avoir une chaussure minimaliste. Il faut que tu ailles dans des boutiques qui sont spécialisées minimalistes, qui représentent moins de 1% des boutiques en France, en Europe et au Canada. Il faut que tu commandes par Internet des marques que tu connais particulières pour avoir une chaussure minimaliste, parce que si tu rentres dans une boutique, on ne te vend pas une chaussure minimaliste, mais plus que ça, on n'en a probablement même pas. Et si on en a, elle représente 1, 2, 3, maximum 5% de l'étalage qu'on a en avant de nous. Donc, c'est une problématique. En fait, le marketing des marques et les équipementiers nous impose actuellement des chaussures à talons surélevés. Tu n'as jamais choisi d'avoir un talon surélevé. On te l'impose, toutes les chaussures sont comme ça, tu l'achètes, c'est bingo. On t'impose même beaucoup plus que ça actuellement. On t'impose une épaisseur, de la rigidité. Après, si tu veux, tu peux avoir la plaque de carbone, tu payes plus cher. Ça ne sert à rien, mais ce n'est pas grave. Voilà. On est vraiment dans quelque chose qui n'est pas très sain, j'oserais dire. Puis là, on parle des adultes, puis les adultes, ben, ils sont consentants, ils font ce qu'ils veulent, et ils préfèrent la chaussure rose que la chaussure bleue, ben, qu'ils achètent la rose, même si elle est plus grosse, même si elle est moins bonne pour leur santé de pied, même si elle est moins bonne pour leur biomécanique. Par contre, cette problématique-là va plus loin que ça. Actuellement, si vous avez des enfants et que vous voulez acheter des chaussures pour les enfants, on vous impose des chaussures maximalistes pour les enfants, qui font en sorte qu'ils vont devenir complètement dépendants de ce profil de chaussures-là. Et c'est parfait parce qu'après ça, on pourra continuer de leur vendre des chaussures maximalistes.
Ok, et du coup, toi, c'est vraiment de ce que tu nous expliques, tu as vraiment essayé de vulgariser toutes les publications scientifiques pour le grand public et de les réunir au même endroit, donc par exemple avec ton livre et avec tout ce que tu mets en place.
Ouais.
Voilà. Et du coup, toi, qu'est-ce qui toi personnellement t'a donné envie de transmettre de faire en fait toutes ces transmissions de connaissances aux professionnels, aux sportifs, mais aussi aux tout venant. Toi, c'est quoi tes motivations intrinsèques?
Alors, moi, je suis un physiothérapeute de profession. Donc, j'ai étudié à l'Université Laval, à la faculté de médecine. Et puis, j'ai appris plein de choses qui venaient de textbooks de médecine. Et après ça, j'ai commencé à pratiquer la physiothérapie. J'ai traité des patients et j'ai eu un souci d'être un bon kiné, un bon physio. C'est-à-dire, j'avais le souci de dire, est-ce que je fais le mieux pour mon patient? Et ça m'a amené à lire un peu la littérature, à aller chercher un petit peu au-delà de ce que j'avais appris à l'université. Et c'est là où il y a eu un clash. C'est-à-dire que c'est là que j'ai réalisé finalement que la littérature scientifique n'était pas toujours en phase avec ce que j'avais appris à l'université. Et là, je me suis dit, tu sais, moi, j'ai dit beaucoup de bêtises dans ma vie. Hein. Au début de ma pratique, je disais des choses aux coureurs qui étaient complètement débiles, que j'oserais plus dire maintenant, mais qui faisaient partie de mon apprentissage. Plus que ça, sur la chaussure, comme on n'apprenait rien à l'université, j'avais été éduqué par des détaillants de chaussures, c'est-à-dire ceux qui avaient été éduqués par les représentants des compagnies. Donc, vous voyez le système dans lequel j'étais. Je recommandais des antipronateurs pour les pieds plats, en considérant que les pieds pronateurs ou plats étaient des problèmes, ce qui n'est pas le cas. Je leur prescrivais des antipronateurs dans les chaussures pour corriger cette pronation, ce qui n'est pas le cas, pour prévenir les blessures, ce qui n'est pas le cas, et en fin de compte, simplement parce qu'on m'avait éduqué à ça. Et en allant plonger dans la littérature scientifique, j'ai réalisé qu'il y avait des études qui remettaient ça en cause, des études qui avaient randomisé, contrôlé, où on avait dit deux groupes, on vous assigne une chaussure appropriée, vous aviez un pied pronateur, on vous donne un antipronateur ou rien du tout. Pour constater que ça ne changeait rien sur l'incidence des blessures. Donc, en lisant la science, j'ai tranquillement changé ma pratique vers une pratique plus cohérente. Quand je dis plus cohérente, c'est plus en phase avec ce que je crois être des meilleures pratiques. Et je ne suis pas le seul à avoir fait ça dans le monde, hein, c'est-à-dire essayer de changer ma pratique parce qu'il y a plein de chercheurs qui ont élaboré des guides de bonnes pratiques. Et il y a la possibilité, comme professionnel, de devenir meilleur simplement en ayant des meilleures connaissances et en appliquant ces connaissances dans notre pratique. Donc, j'ai fait ça. Et à un moment donné, sur la course à pied, on a construit des guides de bonne pratique, en fin de compte, basés sur la science qui n'existait pas. Et je me suis dit, il faut que mes collègues qui sont physio connaissent ces choses-là. Il faut que l'outil que j'ai développé, qui est la quantification du stress mécanique, ils soient capables de eux aussi de l'appliquer parce que pour moi, c'était un game changer. Ça changeait ma pratique de façon très importante. Et à partir de ça, donc, j'ai commencé à donner des conférences à des professionnels de la santé, à des médecins, à des kinés, des physios, des podos. Et après ça, j'ai monté un cours qui est le cours 1.0 de la clinique du coureur, qui est un cours sur les fondamentaux, sur qu'est-ce qu'on connaît de la science. Et ce cours-là, initialement, bouleversait la pratique des professionnels de façon très importante. C'est-à-dire que, à la limite, c'est presque un 180. C'est-à-dire, on recommandait de faire du stretching avant de faire du sport. La littérature nous disait que c'était peut-être pas une bonne idée. On recommandait de l'amorti pour prévenir, réduire le stress sur les genoux. On sait que toutes les études publiées montrent que ça augmente le stress sur le genou. On met des semelles orthopédiques, des orthèses plantaires pour corriger la pronation, mais la pronation n'est pas un problème et n'est pas causale aux pathologies. Et là, il y avait déjà de la science là-dessus. Que j'avais pas appris à l'université, qui était pas très connu par les professionnels de la santé ou très peu. Et là, on a construit des cours. Et ce cours 1.0 est devenu après ça une déclinaison de. Maintenant, on a une quinzaine de cours presque et de conférences de toutes sortes et de formations qui se donnent partout dans le monde, mais qui se donnent aussi en expérientiel au Québec, au Kenya et ainsi de suite. Donc, finalement, on a construit quelque chose pour fondamentalement changer les pratiques aberrantes des professionnels de la santé. Donc, j'avais la prétention, en fin de compte, avec ce que je lisais au niveau scientifique, d'apporter des meilleures pratiques aux professionnels. Et c'est par cette prétention, finalement, qu'on a construit le cours et les déclinaisons et que maintenant, on a sept, qui, en fin de compte, interagissent pour analyser, critiquer la littérature scientifique que Jean-François Esculier trie initialement pour s'assurer qu'on ne manque rien sur la course à pied. Donc, on trie à peu près 2500 titres à tous les mois de la littérature scientifique. Et on fait ça depuis 2005 que je fais ça. En 2008, j'ai fondé la Clinique du coureur. Et après ça, c'est Jean-François qui a pris le relais. Au début, il y avait 300 articles par mois. Ça passait bien. Maintenant, c'est un gros travail d'épluchage. Mais c'est ça qui fait en sorte finalement que ben, on est capable de recommander les choses aux professionnels pour répondre à notre promesse de marque qui est devenir un meilleur clinicien.
Et du coup, est-ce que toi, tu démarches aussi les universités et tu vas en fait directement chambouler en fait la formation initiale pour bah, peut-être prendre le problème à la source?
Alors, moi, j'enseigne à l'Université Laval, j'enseigne un cours sur le diagnostic, j'enseigne un cours sur la course à pied dans le cours de thérapie sportive. On donne aux enseignants universitaires qui sont formés à la clinique du coureur, donc qui ont les compétences pour pouvoir faire le rendu, on leur donne clé en main trois présentations qu'ils peuvent présenter dans les universités un peu partout dans le monde. Donc, on a des enseignants universitaires qui ont fait les formations avancées de la clinique du coureur qui peuvent présenter le Peace and Love, la quantification du stress mécanique et l'indice minimaliste et les relations de la chaussure qui sont trois outils innovants qu'on a développés à la clinique du coureur et qui sont des game changers pour les professionnels de la santé. On a actuellement bientôt 50 universités à travers le monde qui enseignent ces trois conférences-là de façon structurée, etc., dans l'objectif de changer les pratiques. Le Peace and Love est enseigné dans plein d'autres universités que je ne connais pas parce que c'est quelque chose qui est public, qui est ouvert. L'indice minimaliste peut-être aussi, la quantification peut-être aussi. C'est des choses qui sont publiques et qui sont sur le site. Mais nous, on aide les enseignants universitaires, principalement entre autres en France, mais on en a partout dans le monde, avec des présentations clés en main qui sont bien faites, bien montées, dynamiques, qui en fin de compte vont faire en sorte que la personne va pouvoir transmettre cette information.
Okay, ben c'est bien, ça donne de l'espoir pour les futurs professionnels.
Après, l'autre chose, c'est que même à l'Université Laval, on n'est pas toujours à jour. Après, il y a une responsabilité des enseignants de se mettre à jour. Alors, s'il y en a qui enseignent encore le RICE, le grec, pour la gestion des blessures traumatiques, ben, il faut qu'ils se mettent à jour. En fait, voilà. Donc, s'il y en a qui continuent de laisser croire aux étudiants que l'angle Q est causal aux pathologies de genoux ou que la pronation ou que le pied plat est causal, ben, là, il faut changer. Là, la littérature scientifique, elle est disponible pour tout le monde. Ce n'est pas que la clinique du coureur qui l'épluche, elle est là. On la synthétise, on la vulgarise, avec énormément de rigueur et de challenge interne avant qu'on mette quelque chose sur le marché, c'est-à-dire qu'on l'enseigne aux professionnels. Il y a eu des débats internes laborieux entre tous les têtes pensantes de la clinique du coureur pour être sûr que quand on émet quelque chose, ça a passé le filtre, non pas de juste Blaise Dubois, mais le filtre de l'ensemble de l'équipe.
Très bien. Moi, j'ai une autre question. Bon, tu as eu l'occasion de beaucoup voyager dans le cadre de ton travail, notamment au Kenya. Et est-ce que tu remarques des différences sur la vision de l'activité physique et notamment de la course à pied en fonction du pays dans lequel tu te situes? Par exemple, est-ce qu'au Kenya, on a une vision similaire à la vision qu'on pourrait avoir en France, au Canada, etc., ou c'est quelque chose qui est un peu différent?
Alors, au Kenya, on n'intellectualise pas l'activité physique. C'est-à-dire que si on peut rester, on a assez d'argent pour rester assis toute la journée et puis pas être obligé de bouger, on reste assis toute la journée puis on bouge pas. On est vraiment dans le respect de ce pourquoi on nous a fait. Le problème au Kenya, c'est que quand tu vas à Iten, et c'est un milieu rural, il n'y a aucune personne obèse. Pourquoi? Parce que tout le monde bouge. Parce que pour aller à l'école, il faut que tu te déplaces à pied. Puis le problème, c'est que ceux qui ont un peu d'argent sont les plus gros, sont les moins actifs parce qu'eux, ben, ils vont aller à l'école en matatou, en petite moto. C'est quand même intéressant de voir que quand tu vas à Nairobi, c'est-à-dire que tu es dans la grande ville, ben là, tu as beaucoup plus d'obésité que si tu vas à Iten. Parce que les gens font de l'activité par obligation. Ils bougent par obligation parce qu'ils travaillent sur une ferme, parce qu'ils travaillent pour faire plein de choses, puis parce qu'ils ont à se déplacer toute la journée et parce que ils n'ont pas d'argent pour se payer les gros fast-food ou les gros trucs, donc ils vont manger très simplement et ils vont manger des quantités limitées. Donc, La relation à l'activité physique, en fait, quand tu parles aux athlètes de haut niveau, c'est que c'est un travail. C'est-à-dire, j'ai un peu de talent, j'ai la possibilité de gagner des sous avec ça et je décide de m'entraîner pour gagner des sous. Et le jour où j'ai gagné assez de sous, j'arrête de courir. Et tu sais, moi, je sais que je vais courir jusqu'à 100 ans. En fait, la journée où je vais mourir, il est probable que je cours si j'arrive à courir. Tu parles avec Marie Kétani, qui a gagné très bien sa vie avec la course à pied, qui a fait des records sur marathon, records du monde. Et en fin de compte, au moment où elle a décidé de prendre sa retraite, elle a arrêté la course à pied. Elle a arrêté, elle ne court pas du tout. Et ses enfants ne courent pas. Et c'est quand même assez choquant parce que ce que tu remarques, on a fait une étude au Kenya où on avait des questionnaires pour essayer de voir les distances entre l'école et la maison, s'ils étaient chaussés ou pas. Et c'est impressionnant de voir le nombre d'athlètes élites de haut niveau. On sélectionnait des gars qui font en dessous de 29 minutes sur 10 km et en dessous de 34 sur 10 km pour les femmes. 34 minutes. C'est impressionnant de voir que les athlètes de haut niveau ont en très, très grande majorité été à l'école pieds nus et à pied. Et ils couraient pour aller à l'école. Et il y en a qui faisaient jusqu'à 20 km par jour. Ils faisaient 10-12 km pour aller, 10-12 pour revenir. Et ceux qui faisaient seulement 5, ils venaient remanger sur l'heure du dîner pour retourner après. Donc, c'est impressionnant de voir la quantité d'athlètes élites qui ont eu cette relation à l'activité physique qui était imposée par l'environnement et qui a fait d'eux des machines d'endurance avec des pieds ultra solides, avec une tolérance au stress mécanique énorme, avec donc un aspect sur la prévention des blessures qui est grand. Et quand tu décides, à la fin de ton adolescence, quand tu as couru 125 km par semaine pendant toute ta jeunesse, tu décides de devenir un athlète de course à pied, c'est sûr que tu as un petit avantage quand même. Mais ça, c'est ça qui est particulier, c'est qu'après ça, ces personnes-là, s'ils ont l'opportunité de ne rien faire, ils ne font rien. On court parce qu'il faut courir pour gagner des médailles, mais si on ne va pas courir pour la santé, on ne va pas courir pour la forme, on ne va pas courir pour garder son poids santé, on s'en fout complètement.
Et du coup, c'est rigolo parce qu'au début, tu as parlé du respect pour ce pourquoi on a été fait. Et du coup, pour toi, en fait, de quoi tu parles? Et est-ce que justement cette relation un peu archaïque à l'activité physique, est-ce que ça impacte maintenant tes pratiques aujourd'hui?
En fait, l'être humain a évolué par le fait d'être une machine d'endurance. C'est quand même impressionnant de voir que quand on parle de vitesse, on se fait bouffer par à peu près tout le règne animal. Même les écureuils sont plus rapides que la majorité des humains. L'hippopotame est bien plus rapide que nous. L'être humain est vraiment lent. Il est vraiment pas très fort. Il reçoit une baffe d'un chimpanzé, il meurt. La seule chose sur laquelle on se différencie vraiment, c'est le sport d'endurance, c'est-à-dire notre capacité à gérer les températures quand il fait chaud et à être capable d'encaisser et de tenir le rythme très longtemps. Et c'est très paradoxal parce que l'être humain, en fin de compte, fait de moins en moins d'activité physique. Donc, cette partie-là, on a des adaptations qui sont structurelles, anatomiques, donc des longs tendons d'Achille, des orteils qui se sont collés, qui se sont raccourcis, des jambes qui se sont allongées, des bras qui ont raccourci, une panoplie d'adaptations anatomiques et aussi toutes nos glandes sudoripares pour gérer les hautes températures qui font de nous des machines d'endurance. Après, je vous ai parlé tout à l'heure de l'économie essentielle, c'est-à-dire que l'être humain, il est fait aussi pour être économe. C'est-à-dire que si je me déplace du point A à un point B, j'essaye de dépenser le moins d'énergie possible. Donc, je ne lève pas les genoux trop haut, je n'oscille pas la tête gauche-droite de façon trop importante. À force de répétition d'une gestuelle, le corps humain devient plus efficace pour dépenser le moins d'énergie possible. Parce que dans notre survie, finalement, il faut manger pour bouger, pour faire des trucs. Donc, on ne fait rien qui ne sert à rien. Donc, l'être humain a intellectualisé. Il a besoin d'un ballon pour aller courir. Après un ballon, puis là, il a du plaisir. Et puis, il essaye de marquer des buts. Puis là, il court pendant 2 heures de temps avec une activité, finalement, qui va lui faire du bien, qui va le ramener à son mode ancestral où il bougeait naturellement, mais sans l'intellectualiser. De la même manière que moi, je pars courir parce que je me dis, c'est aussi bon pour toi. Et je pars courir en intellectualisant cette partie-là, finalement. Mais voilà, je pense que l'être humain, en fin de compte, présentement, est dans une problématique, c'est qu'on a appris à stocker du gras pour les jours plus maigres, mais il n'y a plus de jours plus maigres. On a appris à être le plus sédentaire possible pour être économique, mais en étant le plus sédentaire, on se déconditionne parce qu'il n'y a jamais de moment où on bouge. Il y a clairement un paradoxe qui, en fin de compte, fait en sorte que l'être humain, maintenant, court à sa perte. Présentement, on a une panoplie de maladies modernes qui sont reliées à l'inactivité physique. Il y a même des études qui montrent que l'inactivité physique tue plus de gens actuellement que l'obésité, le diabète et la fumée de cigarette réunies. C'est probablement un des facteurs clés de la survie, autant au niveau mortalité que morbidité. On a des réductions de risque de décès qui sont phénoménales. Il y a des études qui vont jusqu'à 63 %. La moyenne chez les coureurs, c'est 27 % moins de risque de décès si on fait de l'activité physique régulièrement. Et bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, la morbidité, c'est-à-dire les maladies modernes, 60 % moins de cancer du sein, 35 % moins de maladies cardiovasculaires, 60 % moins de diabète de type 2. On a une liste et une liste de choses impressionnantes où l'activité a des effets phénoménaux.
Et du coup, tout à l'heure, tu as parlé de la bigorexie. Ouais. Comment toi, tu arrives à garder justement ton hygiène de vie sans tomber dans le trop, donc le trop d'activité physique, mais aussi le trop, je sais pas, trop de calcul d'hygiène de vie, de sommeil, d'alimentation.
Ouais. C'est compliqué, mais c'est juste pour revenir sur la bigorexie, c'est que moi, j'ai des patients, des patientes, beaucoup plus que des patients, qui sont bigorexiques et à la limite, c'est même pas par choix. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont une tendance bigorexique et à faire de l'activité physique, ils s'y retrouvent et ils se font entraîner dans cette problématique de la dépendance à l'activité. Alors, on s'entend que dans toutes les dépendances qu'on peut avoir, moi, si j'en ai une à choisir, je vais choisir celle de l'activité physique, OK? Avant la fumée de cigarette, l'alcool ou quoi que ce soit d'autre. La seule chose, c'est que tu peux être bigorexique et être relativement en santé. C'est-à-dire que tu ne te surentraînes pas. Puis d'ailleurs, les bigorexiques ne se surentraînent pas tant normalement parce qu'ils ont tellement peur de se blesser pour après ça être obligés de devoir arrêter. Ben souvent, ils vont justement réduire un petit peu. Il y en a même qui arrêtent de faire des compétitions parce qu'ils veulent s'assurer de ne pas se blesser. Ils arrêtent de faire des choses qui sont trop exigeantes parce qu'ils veulent tous les jours avoir leur activité physique nécessaire. J'ai perdu mon idée, mais je me souviens plus où j'allais. Je parlais de bigorexie et en fait, la bigorexie devient problématique quand ta dépendance est assez forte que s'il faut que tu arrêtes de courir, parce que, exemple, tu as une blessure, tu as une douleur à quelque part, tu n'arrives pas à arrêter de courir. Et la bigorexie est encore pire quand elle interfère avec ton mode de vie et ton environnement social. C'est-à-dire que je vais dans la famille pendant le temps des fêtes, mais je ne vais même pas faire de l'activité pour le plaisir. Je ne peux pas me passer de faire de l'activité. Et finalement, je préfère aller faire mon activité plutôt que de passer du temps avec la famille qui est là présentement, qui a besoin de moi ou qui aimerait pouvoir me parler. Et finalement, non, ça interfère avec la vie sociale. De la même manière que l'anorexie interfère avec la vie sociale aussi, puis que là, on a des effets néfastes sur la santé. Donc, en gros, c'est ça. Mais pour revenir à moi, en fin de compte, c'est que je suis intrinsèquement pas bigorexique. J'ai pas vraiment de dépendance. Je veux surtout pas m'en vanter parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des aspects génétiques autour des dépendances et j'ai pas développé de dépendance à l'activité, même si je cours depuis 35 ans tous les jours ou presque. Donc, mais ne pas avoir de dépendance, ça veut pas dire ne pas avoir d'intérêt à aller le faire, de plaisir à aller courir. Et dans mon équilibre, en fin de compte, toi, je m'inscris à chaque année à un ultra. J'ai fait le Mexique, c'était un 100 km. L'année passée, c'était Madère qui était un 80 et quelques kilomètres. Il faut quand même se préparer, il faut s'entraîner, il faut quand même cumuler un petit peu de volume. Pour répondre à ta question, en fin de compte, je le place dans mon horaire. Le non négociable, c'est l'heure d'activité. Après ça, quand j'ai un objectif comme ça, je fais des weekend shocks, je rallonge des choses. Et puis finalement, j'arrive à rester en plein équilibre à travers tout ça et à travers ma famille et à travers le travail et l'ensemble de toutes les autres tâches que j'ai.
Très Très bien, merci beaucoup Blaise pour toutes ces réponses. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu peux nous partager une ressource qui, toi, t'a aidé à être bien dans tes baskets ? Ça peut être un livre, un film, un podcast ou ce que tu veux.
Oh, bonne question. Ce qui m'aide vraiment à être bien dans mes baskets, je vais me répéter, hein, puis on a fait tout le podcast là-dessus, mais c'est de courir tous les jours. Et j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Et à 14 ans, c'est parce que je l'intellectualisais comme le désir d'aller aux Olympiques sur marathon, parce que j'avais lu des livres tout jeune avec les records olympiques. Et puis, ça m'avait passionné. Puis, j'avais dit, ah, moi, je veux devenir un marathonien. Bon, j'ai assez réalisé vite que mes mollets étaient un peu trop gros, que mon VO2 max était un peu limité. Mais bon, j'avais quand même du plaisir et j'ai commencé à courir et j'ai jamais arrêté. Je te dirais que j'ai beaucoup de difficultés à nommer un film, un livre, quelque chose de précis parce que ma vie est remplie de beaucoup d'influences externes, mais énormément. Et maintenant, avec les médias sociaux, c'est même facile hein, de scroller puis de voir un peu, d'être teinté de plein de différentes personnes qui t'amènent différentes réflexions ou autres. Je suis entouré de personnes qui m'amènent à avoir beaucoup de réflexions dans mes deux entreprises, les trois entreprises, avec donc beaucoup de gens qui me challenge et qui m'amènent à réfléchir. Donc, j'oserais plus dire que je suis bien dans mes baskets avec mon environnement où je peux courir tous les jours, où j'ai le bonheur d'avoir une famille géniale et de pouvoir passer du temps avec eux et après ça, d'être challengé avec tous mes collègues dans le travail. Voilà, c'est un peu évasif comme
oui, t'as un peu esquivé la question. Et du coup, même si tu as à peu près répondu pendant tout le podcast, mais est-ce que pour finir tu peux nous dire si aujourd'hui tu peux dire que tu es bien dans tes baskets?
Alors oui, aujourd'hui je suis bien dans mes baskets et je pense que la raison pour laquelle je suis bien dans mes baskets aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qu'il faut redéfinir fréquemment. L'exercice du X, où je me pose la question sur deux axes, est-ce que la majorité de mon temps est sur quelque chose que je suis bon et que j'aime faire? Et quand tu es entrepreneur, je rajoute un troisième axe qui est est-ce que je crée de la valeur pour l'organisation? Cette partie-là, en fin de compte, fait en sorte que de faire cet exercice-là, de s'arrêter, de se mettre devant la page et de se dire, OK, est-ce que je suis dans mes baskets aujourd'hui? Est-ce que c'est la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Et après ça, tu as toujours une zone en bas où tu dis, ben là, je suis pas très bon, j'aime pas vraiment ça. Qu'est-ce que je fais avec toutes ces tâches opérationnelles, ces choses que j'aime pas faire? Eh bien, je les délègue. Et ce qui est bien quand tu es en équipe, quand tu es en groupe, c'est que finalement, il y en a d'autres qui vont être sur leur X en faisant des choses que tu faisais sur lesquelles toi, tu n'étais pas sur ton X. Donc, moi, j'ai pris la décision, année après année, de redéfinir mon X, comment je suis bien dans mes baskets, et d'avoir minimum 60% de mon temps sur mon X et de déléguer les choses qui sont inappropriées pour moi, c'est-à-dire que j'aime pas faire ou que je suis pas bon. Et cet exercice-là m'amène à être continuellement dans mes baskets parce que je pense vraiment que je suis dans mes baskets. Je suis très heureux dans ma vie. Je fais ce que j'aime. Des fois, il y a des moments de surcharge. Il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué de gérer le temps et tout ça. Mais il reste quand même que je suis heureux et que je suis dans mes baskets.
Merci beaucoup, Blaise. C'était vraiment un plaisir et un honneur pour nous de t'avoir sur ce troisième épisode de Bien dans ses baskets. On te remercie pour tout et on va te souhaiter du coup une très bonne journée. Merci beaucoup, Blaise.
Merci à vous. Salut Nina, salut Johan.
Salut.